une citation. Je leur laisse la responsabilité de cette déclaration face à l'histoire du mouvement, et je passe à leur déclaration que tous les sauvés, et dans les cieux et sur la terre, forment un seul troupeau sous la conduite d'un seul berger, d'après le passage de Jean chapitre 10. Mais bien que c'est un seul troupeau, ils admettent qu'il y a des distinctions, je cite, « justifiées et non susceptibles de motiver quelques plaintes chez les autres brebis ». Les témoins acceptent que Jésus se soit délivré, sacrifié pour tous les hommes. Mais ils insistent que les hommes qui décident de suivre celui qui est mort pour tous les hommes soient divisés en deux classes. La division est claire et nette, voilà les deux adjectifs, deux classes, espérance céleste, espérance terrestre, fils spirituel, fils non spirituel, élu dans les cieux, autre brebis sur la terre. Mes amis, cette doctrine de division entre chrétiens est totalement étrangère au passage de la Bible, et si elle existe aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui l'a inventée. Les Écritures, loin d'enseigner une doctrine de séparation dans les rangs des chrétiens, enseignent exactement le contraire, et que dans le christianisme, toute notion de niveau ou d'espérance différente est absolument exclue. Cet enseignement de l'égalité des chrétiens devant Dieu s'avérait par ailleurs nécessaire à cause d'une situation qui nécessite un peu d'explication. Il avait été annoncé dans l'Ancien Testament que toutes les nations de la terre seraient bénies en la postérité d'Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1. Il avait été annoncé que les païens, ceux qui marchaient dans les ténèbres, verraient la grande lumière de Dieu, Ésaïe chapitre 9, verset 1, et que Dieu appellerait son peuple ceux qui n'étaient pas son peuple, Osée 2, 23. Tout cela annonçait l'entrée dans le dessein de Dieu des gens qui n'étaient pas et qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire des païens. Dans ce contexte, Jésus est arrivé prêchant seulement aux juifs, mais leur disant qu'il avait d'autres brebis qu'il allait amener, Jean 10, 16. Pour comprendre cette remarque, on n'a pas du tout besoin d'aller bien loin, car le contexte lui-même nous l'explique. Jean nous dit au chapitre suivant que Jésus allait mourir non seulement pour la nation, c'est-à-dire pour les Juifs, mais afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, 11, 52. Autrement dit, les enfants de Dieu parmi les païens aussi. Et effectivement, après que l'Évangile est prêché aux Juifs, Pierre apprend dans le 10e chapitre des Actes qu'il faut aussi l'enseigner aux autres nations. C'était et c'est la volonté de Dieu. Mais dès le début, les Juifs, qui se sont toujours crus l'unique peuple de Dieu, ont eu du mal à accepter les païens dans l'Église, dans la même organisation, si vous voulez, avec eux. Une lecture des Épîtres aux Éphésiens, aux Romains, Galates, Colossiens, Philippiens, par exemple, montre que le problème du racisme, et cela éventuellement des deux côtés, tracassait cette jeune Église et que les apôtres ont dû s'adresser très directement à cette situation. Le désir du Christ était qu'ils soient tous unis en un seul corps des diverses religions et races qu'ils étaient venus. Nous regarderons quelques exemples de cet enseignement. Nous avons ici un passage d'Éphésiens, chapitre 4. Dans le deuxième chapitre de cette même épître, l'apôtre a souligné le fait que le Christ a fait des deux, c'est-à-dire des Juifs et des païens, un seul corps, et qu'il avait détruit le mur d'inimitié qui avait existé entre eux pour leur donner aux uns et aux autres accès au Père par le sang de sa croix. Ici, il annonce encore qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Les témoins disent, vous vous rappelez, qu'il y a deux groupes et deux espérances, une espérance terrestre et une espérance céleste. Aux Colossiens, Paul dit que leur espérance est réservée dans les cieux. Dans les cieux. Et Pierre dit, dans un passage qui a été cité par M. Opsitch ce matin, que l'héritage qui ne peut ni souiller ni flétrir est réservé dans les cieux. Pierre 1, verset 4. Il n'est jamais question dans la Bible d'espérance sur la terre. Quand on parle d'espérance, il s'agit toujours d'espérance dans les cieux. Les chrétiens du début n'étaient pas divisés en deux groupes, l'un avec une espérance céleste, l'autre avec une espérance terrestre. Aux Galates, Paul dit, « Vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Les témoins disent que parmi les chrétiens, quelques-uns sont des fils de Dieu et quelques-uns sont des petits-fils de Dieu, puisque Jésus sera leur père symbolique pendant le millénium. Pourtant, ce passage dit qu'il n'y aura pas de division parmi les sauvés. Romains 12, verset 5, dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 13 enseigne que nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Partout dans le Nouveau Testament, les apôtres ont enseigné clairement que tous ceux qui veulent rentrer dans l'Église peuvent le faire. Tous ceux qui veulent peuvent le faire. Et que dans le sein de l'Église, il n'y a jamais de distinction entre espérance, entre classe, entre position devant Dieu. L'héritage est toujours céleste et l'espérance est toujours céleste. On ne peut pas être membre d'un seul troupeau et avoir deux destinées ou deux espérances. Un seul troupeau est toujours couché dans la même bergerie la nuit venue. Jésus n'aurait pas utilisé cette métaphore si la division proposée par les témoins est vraie. Au contraire, la métaphore illustre qu'il ne doit pas y avoir de groupement dans le sein de l'Église. Mais, disent les témoins, tous ces passages, et ils sont au courant de ces passages que je vous ai cités, ils les connaissent fort bien. Tous ces passages que vous avez cités, ainsi que tous les passages de la Bible qui ont trait à l'Église, à la nouvelle alliance, à l'œuvre du Saint-Esprit, au royaume, à la sanctification, à la justification, tout cela ne s'applique qu'aux 144 000. Donc, montrer ces passages où il est dit que nous sommes tous membres d'un seul corps, nous avons tous les mêmes espérances, etc., ne prouve rien puisque les portes de l'Église sont fermées pour tous les autres et que ces passages ne s'appliquent qu'à ceux qui sont à l'intérieur. C'est là l'enseignement de la tour de garde sur ce sujet. Toutes ces choses ne s'appliquent même pas aux autres brebis. La Bible n'est donc pas pour la grande foule. Je répète, la Bible n'est pas pour la grande foule, mais uniquement pour les 144 000. Les promesses ne sont pas pour la grande foule, mais uniquement pour les élus. Je me demande jusqu'à quel point ceux de la grande foule des témoins se rendent compte de cette réalité, de cet enseignement, et s'ils s'en rendent compte, à quel point ils comprennent exactement ce que cela veut dire. Jésus a dit dans Matthieu 5 et 12, pardon, je voulais mettre un peu de repos pour nos yeux. Jésus a dit dans Matthieu 5, 12 que ceux qui sont persécutés ou outragés à cause de lui, recevront une grande récompense dans les cieux. Alors, selon l'enseignement des témoins, où les autres brebis ne sont jamais persécutées, ou s'ils sont persécutés, Jésus ne tient pas sa promesse dans leur cas, car cela voudrait dire qu'il les laisse entrer dans les cieux. Dans Matthieu 11, 28, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos que Jésus donne est un repos céleste, selon Hébreux chapitre 4. Mais cette promesse n'est pas pour les autres brebis, donc ils n'auront pas de repos, même s'ils sont fatigués et chargés. Même s'ils viennent au Christ, ils n'auront pas ce repos. Parce que ce repos est céleste et ce repos est donc réservé aux 144 000. Dans ce cas non plus, Jésus ne tient pas sa promesse. Quand Paul dit en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils, c'est-à-dire tous, toujours, sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui était en Jésus-Christ. Cela ne s'applique évidemment pas aux autres brebis. Ils ne recevront pas leur salut par la foi en Jésus, malgré ce que dit l'Écriture, car ils le mériteront eux-mêmes, par leur propre force, pendant le millénium, selon l'enseignement de la tour de garde. Ils n'auront même pas besoin du sang du Christ. Quand Paul dit aux Romains, dans le premier chapitre des Romains, verset 16, que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, l'autre brebis ne peut pas considérer que c'est pour lui, même s'il croit en Jésus. Alors, qui a tort? Est-ce Paul ou est-ce les témoins? Et quand il dit dans le troisième chapitre des Galates, verset 22, que le salut qui a été promis est donné en Jésus-Christ à ceux qui croient, Il parlait là des 144 000 seulement et non pas aux autres. Vous voyez que cette doctrine est absolument irréconciliable avec l'universalité de l'appel de l'Évangile donné par le Christ et par les apôtres. Elle est indéfensible et ne sert qu'à montrer jusqu'à quel point un homme ira pour imposer une perspective personnelle sur l'interprétation des Écritures. Pour voir plus clairement le mal fondé de cette doctrine, je voudrais regarder, avant de quitter ce point, d'abord quelques personnages qui ne font pas partie de ces 144 000, donc qui ne seront pas dans les cieux, selon les témoins, et deuxièmement, comment on peut être sûr d'en faire partie de ces 144 000. Selon les témoins, les patriarches de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob et les autres, aussi bien que tous les rois et les prophètes d'Israël, de Moïse à Ésaïe, tous ces gens-là ne faisant pas partie des 144 000 qui ne se rassemblaient pas avant l'œuvre de Jésus-Christ, vous voyez, tous ces gens-là n'iront donc pas au ciel. Ils seront plutôt des princes sur la terre, ayant ressuscité pour devenir des autres brebis, comme vous le voyez sur cette cliché. Ces princes rempliront bien leurs fonctions. Leur foi et leur obéissance à Dieu auront été approuvées. Les uns seront des autres brebis actuellement en vie. Les autres, des personnages tels qu'Abraham, Moïse, David et d'autres, dont la foi reçoit une mention particulière au chapitre 11e de l'Épître aux Hébreux. Ces hommes du passé ressusciteront d'entre les morts et deviendront des autres brebis. Abraham, père des fidèles, dont il est dit que sa foi lui fut imputée pour justice, Abraham n'ira pas au ciel. Moïse, qui a d'ailleurs apparu avec Élie dans la gloire, comme M. Opsitch disait tout à l'heure, qui disait tout à l'heure que Moïse a apparu avec Élie dans la gloire pour parler avec le Christ sur le mont de la transfiguration, juste avant la mort du Christ. Ce Moïse, par qui Dieu a donné la première alliance à Israël, Moïse qui était le type du Christ, n'ira pas au ciel. Et les autres, David, par exemple, qui a dit dans le psaume 73, verset 25, « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Il se trompait, évidemment. Ce David dont le Christ est la postérité, sur le trône duquel est assis le Fils de Dieu, ce grand roi d'Israël dont Jésus a pris le nom, fils de David, n'ira pas, lui non plus, au ciel. Tous les personnages mentionnés dans le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Gédéon, Jephthé, David, Samuel, les prophètes et les autres, aucun n'ira au ciel. Pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé de littéraliser un chiffre très imagé et très symbolique du livre de l'Apocalypse. Il ne faut pas longtemps pour voir que cet enseignement au sujet des patriarches et les autres est absolument faux. Jésus dit par exemple dans Matthieu 8, 11, dans un contexte où il est favorablement impressionné par la foi d'un païen, d'un romain, il dit « Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire de toutes les nations. » Il parlait aux Juifs au sujet d'un romain, donc il voulait dire « Il y aura ceux qui viendront des autres nations, des païens aussi. » Et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ce passage n'a pas échappé à l'intention des témoins, évidemment. Et ne pouvant pas le contredire, parce qu'il dit qu'Abraham et Isaac et Jacob seront dans les cieux, c'est très clair. Eh bien, il se contente de dire qu'Abraham, Isaac et Jacob représentent ici les 144 000. Quant aux gens de Hébreux, chapitre 11, nous noterons ce verset 16 du même chapitre qui dit au sujet de ces gens que la patrie qu'ils cherchaient en était une céleste. Nous avons entendu un passage ce matin cité par M. Opsitch qui disait « Notre cité à nous est dans les cieux ». La cité que cherchaient tous ces gens était dans les cieux et pas sur la terre. Hébreux 13, 14 dit qu'il n'y a pas de repos sur la terre. Il n'y a pas de lieu de patrie sur la terre permanent. Notre cité à nous est dans les cieux. Ces gens de Hébreux 11 cherchaient une patrie dans les cieux. Alors que les témoins disent qu'ils seront sur les terres, sur la terre, il est dit là qu'ils seront dans les cieux, à moins qu'ils ne se trompent. Et le dernier verset de ce chapitre indique que si ces gens n'ont pas reçu encore ce qu'ils attendaient par la foi, c'est que Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent à la perfection sans nous, c'est-à-dire sans les chrétiens auxquels la lettre est écrite, évidemment, en premier lieu, qui figuraient, eux, parmi les 144 000, selon la doctrine des témoins. Si nous tirons des conclusions qui s'imposent, donc à partir de cette constatation, où les chrétiens du premier siècle auxquels cette lettre fut adressée vivront sur la terre avec ses patriarches, ce qui est contraire à la doctrine des témoins, puisque ces premiers chrétiens faisaient partie des 144 000, où les patriarches seront ensemble dans les cieux, comme il est dit d'ailleurs dans ce verset, car où qu'ils soient, ils seront ensemble, les premiers chrétiens et les patriarches, par moyen de voir le passage autrement. Il y a quand même une autre possibilité, j'y ai fait allusion tout à l'heure, celle que l'apôtre ou quelqu'un qui écrivait ces choses se trompait. Mais entre un apôtre de Jésus-Christ qui dit que ces gens iront au ciel, et un homme du 20e ou du 19e siècle, j'opte volontiers pour l'apôtre. Et l'apôtre dit qu'ils iront au ciel, et Jésus-Christ dit qu'Abraham, Isaac et les autres iront au ciel. Vous voyez donc la faiblesse de la déclaration des témoins que lorsque Jésus dit aux brebis à sa droite de venir, il ne les invitait pas à venir au ciel, disent-ils, pour assiéger avec lui sur son trône, mais plutôt sur la terre. Cette déclaration et l'enseignement qu'elle représente va carrément à l'encontre de l'unique espérance au ciel enseignée, on ne peut plus clairement par la Bible. Cette doctrine met les témoins dans la même fâcheuse position que ceux auxquels Jésus, en colère, a dit dans le 23e chapitre de Matthieu, « Malheur à vous, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Maintenant, comment les élus savent-ils qu'ils sont les élus? Quels sont les critères utilisés? Selon les témoins, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu et Dieu seul qui décide, une sorte de prédestination de la part de Dieu. Et non seulement il décide pour la personne, mais il lui indique à cette personne quel avenir lui est réservé et comment indique-t-il cet avenir? Dans le livre « La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu », sous la rubrique intitulée « Le témoignage de l'Esprit de Dieu », page 151-56, il est dit d'abord à la page 153 que nous ne sommes pas, c'est nous témoins, nous ne sommes pas fils spirituels, entendez 144 000, nous ne sommes pas fils spirituels à moins que l'Esprit de Dieu ne rende témoignage avec notre esprit de ce fait. Mais comment fait-il cela? Eh bien, nous arrivons sur l'écran. Lorsque nous lisons toutes les choses de la Bible à l'intention des héritiers de Dieu, de la nouvelle alliance, du royaume céleste, si nous sommes parmi les élus, l'esprit filial, au-dedans de nous, nous incite à considérer que ces choses nous concernent directement. Nous sentons que ces choses nous touchent personnellement. Nous sentons que nous sommes co-héritiers de son Fils principal, Jésus-Christ. Voilà, c'est à partir d'un sentiment qu'un témoin décide s'il est fils spirituel de Dieu, membre des 144 000 ou non. Je dois dire que cet enseignement me surprend plus qu'autre chose, puisqu'ici les témoins qui d'habitude condamnent, et à juste titre, le sentimentalisme comme gérant ou garantie du salut, ils acceptent ici comme évidence de l'élection un sentiment que l'on peut avoir dans son cœur, alors que si cela peut marcher pour eux, ça peut également marcher pour ceux qui sont convaincus dans leur cœur qu'ils sont en possession d'un don miraculeux ou même d'une doctrine divine donnée par révélation ultérieure à la révélation de la Bible, comme disent les Mormons, par exemple. Et si je ne sens pas ces choses, si en tant que témoin je ne ressens pas ces choses, alors ces choses ne me touchent pas personnellement. La nouvelle alliance, le royaume céleste et tout le reste, la Bible n'est pas pour moi. C'est ce que croient les témoins. Mais la Bible dit que ces choses sont pour tous ceux qui vivent sur la face de la terre. Je laisse donc à ceux qui l'ont inventé la responsabilité d'une telle doctrine. Elle n'est certainement pas biblique. Et les autres brebis doivent savoir On devrait leur dire, on doit absolument leur dire qu'ils se sont vus dépourvus par cette doctrine d'un salut offert à tous les hommes sans exception et sans distinction. Avant de passer au dernier point, j'aimerais quand même vous montrer quelque chose qui souligne encore une fois l'extrême distance qui existe entre les 144 000 et la grande foule, une distance nullement soutenue par les Écritures. Saviez-vous, par exemple, qu'alors que les 144 000 passent directement aux cieux à leur mort, après avoir subi seulement l'épreuve de cette vie, ou dans le cas de ceux qui seront toujours en vie à la bataille d'Armageddon, après avoir subi au plus deux épreuves, celle de cette vie et celle de cette fameuse bataille, les membres de la grande foule, pour arriver à la vie éternelle, doivent éventuellement passer à travers pas moins de quatre épreuves de leur foi. Chacune de ces étapes est décrite en détail dans les écrits de la tour, mais j'ai relevé une phrase dans un de leurs livres qui résume le tout en raccourci. La voici, c'est moi qui ai mis les chiffres et les numéros, etc. Ce n'est pas la tour qui a arrangé la chose de cette façon, mais c'est une citation textuelle. Et la citation, vous l'avez devant vous, on peut, par suite de sa conduite, subir une sentence défavorable, soit à présent ou à Armageddon, soit au cours du règne millénaire ou à l'issue de l'épreuve finale. Pendant cette vie, l'autre brebis doit se montrer fidèle en toutes choses, sinon il est rejeté. Cela, je dirais, c'est normal. C'est une première épreuve. Puis, si Armageddon arrive avant la fin de sa vie et tout témoin le souhaite, il doit se montrer courageux et fidèle pendant cette bataille horrible, sinon il sera lui-même tué. Deuxième épreuve. Après cela, pendant le millénium, lorsque le diable est lié et pendant lequel ceux qui sont sur la terre sont en train d'avancer progressivement vers la perfection et d'acquérir la capacité de vivre sans péché, pendant cette période, ceux qui se révoltent seront exécutés sur le champ. Troisième épreuve. Et finalement, lorsque les hommes seront devenus parfaits grâce à leurs propres efforts et à la direction du Christ avec ses 144 000 adjoints, ces hommes et ces femmes parvenus à la perfection, mais toujours les autres brebis, devront subir une ultime épreuve. Quand Satan sera lâché de sa prison, quatrième épreuve. Même les patriarches et les prophètes dont nous parlions tout à l'heure, qui ont autrefois subi tant d'épreuves terribles pendant leur vie sur la terre avant la venue du Christ, même eux devront affronter ces deux derniers obstacles pour montrer leur fidélité, et même eux risquent de chuter à cet instant. Et quelques-uns de ces hommes et femmes perfectionnés chuteront, quelques-uns de ces femmes et des hommes et de ces femmes parfaits, arrivés à la perfection humaine, chuteront et seront anéantis lors de cette quatrième épreuve. Ensuite vient la vie éternelle tant voulue et que les témoins prêchent avec une telle vigueur. Telle est la doctrine des témoins pour la grande foule, quelques quatre épreuves. Les élus n'ont qu'à se montrer fidèles pendant cette vie, certains pendant la bataille d'Armageddon, mais tous les autres passent par les épreuves terribles et multiples pendant que les oints règnent avec le Christ du haut du ciel. Eh bien, avec toute la conviction et avec tout l'amour de mon cœur, je m'indigne contre cette façon de s'emparer de l'espérance des gens et de tordre les Écritures pourtant si claires sur ce sujet. Les témoins appelle cela une espérance, mais à part le fait que ce n'est pas du tout biblique, c'est plutôt un cauchemar de salut jamais atteint, ou un jour atteint, le salut impossible ou de salut par des œuvres méritoires, avec risque à tout instant d'anéantissement. La Tourne me dit dans une de ses publications, « Tel sera le monde sans fin. Voudriez-vous y vivre? Si oui, devenez sans attendre une autre brebis. » Je réponds avec tout le respect que je leur dois, non merci. Ce n'est pas là une espérance, en tout cas ce n'est pas l'espérance libératrice enseignée dans la Bible. Nous passons à l'application pratique, troisième et dernier point. Il y a un résultat naturel et normal de l'application de cette doctrine au sein de l'organisation, et c'est le phénomène inévitable qui s'appelle l'hiérarchie. Les témoins n'aiment pas ce terme et je les comprends. Personne, je suppose, n'aime bien ce terme. Ils insistent même que l'hiérarchie n'existe pas dans leur organisation. Ils se sont élevés, et avec raison, contre l'hiérarchie de l'Église catholique romaine, un système qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Ils sont très vite à critiquer un système qui élève les hommes au-dessus, des hommes au-dessus des autres, qui exige pour le développement spirituel du croyant qu'il passe par tout un labyrinthe de supérieurs et de dignités pour enfin arriver devant le trône de Dieu. En gros, ils s'élèvent contre trois choses. Contre d'abord l'existence d'un pape, considéré comme infaillible et représentant de Dieu sur la terre. Deuxièmement, contre l'existence d'une église mère qui détermine, avec bien sûr l'appui du pape, qui décide de la doctrine officielle de l'église pour tous les membres. Et ensuite, troisièmement, contre l'existence d'un clergé ou d'une classe dirigeante. Je vous prie de bien garder en tête ces trois objections majeures, pape, église mère et clergé. Au sujet du pape, ils disent par exemple, la prétention du pape à vouloir être chef de l'Église en qualité de successeur de Pierre est dénué de tout fondement, autant dans les Écritures que dans l'histoire profane, et ils ont raison. Au sujet de l'Église officielle, ils disent, l'Église catholique dirigée du Vatican se dit être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, que certains humains édifient une organisation administrée par un sacré collège de cardinaux, ils lui donnent le nom d'Église en affirmant qu'elle est celle du Dieu vivant. C'est là une violation flagrante de la parole divine. Et ils ont raison. Au sujet des clergés, ils disent, nous sommes là maintenant sur l'écran, les titres créèrent une séparation. Les chefs honorés formèrent le clergé ou la classe dirigeante, tandis que les gens du commun constituèrent la classe des laïcs ou des dirigés, et ils ont raison. Ce que je suis en train de vous suggérer, si vous n'avez pas encore noté, c'est que l'organisation des témoins de Jéhovah, bien qu'ayant en horreur celle de l'Église catholique, et pour les raisons données, lui ressemble pourtant, et cela à beaucoup d'égards. Quand on considère la position et l'influence du président, élu à vie, quand on considère le rôle administratif du collège central, quand on considère l'élévation des 144 000 au-dessus des autres brebis, et les titres qui sont accordés, nous les avons vus tout à l'heure, les titres qui créèrent une séparation quand il s'agit du clergé et qui créent une séparation quand il s'agit des 144 000, on est forcé de constater que, si l'on regarde d'un œil bien objectif, les deux organisations se ressemblent. Les témoins disent que le gouvernement de la congrégation de Dieu est non hiérarchique, mais théocratique, c'est-à-dire qu'elle est gouvernée par le Dieu du ciel, par l'intermédiaire du Fils glorifié. Les catholiques, qu'ils soient mentionnés en passant, diraient exactement la même chose. Mais considérez ce dessin publié dans la Tour de Garde du 1er avril 1977 sur l'organisation de Dieu. Évidemment, il y a au sommet Jéhovah Dieu et après son Fils, Jésus. Après, on arrive sur la terre. Qui est cet esclave fidèle et avisé? Je cite, c'est l'ensemble des membres de la fidèle congrégation de Dieu, engendrés de l'Esprit, autrement dit, dans le langage des témoins, les 144 000. Une autre publication suggère que c'est les Israélites spirituels, c'est-à-dire les 144 000. Et quel est le rôle de cet esclave? Son œuvre consiste à dispenser la nourriture spirituelle au temps voulu, c'est une citation. Et comment cet esclave donne-t-il la nourriture aux autres? Par le moyen des publications de la Tour de Garde. Et voilà où le rôle de ce collège central devient important. Ce collège central de l'esclave, et je cite, s'est toujours confondu avec l'association déclarée, connue sous le nom de Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, et qui gère tout ce qui est nécessaire aux témoins de Jéhovah du monde entier. Or, il convient de noter, puisque nous sommes en train de parler de la séparation de l'hiérarchie qui existe ici, il convient de noter ou de trouver où sont les autres brebis dans tout cela. La grande foule, les autres brebis, viennent après la classe de l'esclave fidèle et avisé, après le collège central avec ses nombreux comités, après la comité des trois surveillants de filiale, après le collège central de la congrégation. Voilà ceux des autres brebis ou de la grande foule. Et qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qui doit être son attitude, cette autre brebis, vis-à-vis de toutes ces choses qui viennent d'en haut? La nourriture qu'il reçoit de cette organisation si hiérarchisée, il doit l'accepter sans poser de questions. Comme la vérité de Dieu, il faut aborder l'étude de la tour de garde dans une bonne disposition d'esprit et de cœur. Si nous aimons Jéhovah et son organisation, nous n'aurons aucune défiance, mais ainsi que le dit la Bible, nous croirons tout, c'est-à-dire tout ce qui paraît dans les colonnes de la tour de garde. Il n'y a pas d'hiérarchie, disent les témoins. Pourtant, il y a ceux qui donnent la nourriture et ceux qui doivent l'accepter, sans question. Pourtant, il y a ceux qui dirigent et ceux qui suivent. Toute cette hiérarchie n'existerait même pas s'il n'y avait pas division profonde entre élus et autres. Mais les élus objectent en disant, oui, mais ce n'est pas vraiment nous qui dirigeons, c'est Dieu. Ce n'est pas nous qui donnons la nourriture, mais c'est Dieu, Jéhovah Dieu, et puis après son fils, et puis après l'esclave fidèle et avisé. Si c'était vrai, et je le dis en toute sincérité, si c'était vrai, et si l'organisation des témoins de Jéhovah était vraiment une théocratie et non une hiérarchie, si Dieu inspirait les articles de la tour de garde et des publications officielles, comme disent les témoins, alors Dieu s'est trompé pas mal de fois. Au cours des années qui se sont écoulées depuis que cette organisation existe, Dieu croyait donc, il faut quand même arriver à cette conclusion, Dieu croyait que la fin du monde était pour 1914, et puis 18, et puis 25, et puis 75, et après. Il a changé d'avis au sujet de l'Israël physique dans les années 30. Il s'est même trompé sur l'identité de la grande foule jusqu'en 1935. Et que les témoins ne me disent pas que c'était plutôt que Dieu leur révélait ces choses progressivement. Si c'était vrai, le cas, si c'était le cas, Dieu n'aurait pas donné... Pardon, si c'était le cas, il y aurait vraiment développement de la vérité. Si Dieu révèle ces choses progressivement, il y aurait vraiment développement de la vérité et non pas contradiction entre ce qui est vrai aujourd'hui et ce qui était vrai hier. Si c'était le cas, Dieu n'aurait pas donné dans les pages de la tour de garde des prophéties qui ne se sont pas réalisées et il y en a pas mal. Si c'est à l'auteur céleste que revient l'honneur de ces prophéties, comme disent les témoins, c'est également à l'auteur céleste que revient la honte quand ces prophéties ne se réalisent pas. Seulement Dieu ne se trompe pas, nous savons que Dieu ne se trompe pas. Alors si la prophétie ne s'est pas réalisée, c'est qu'elle était fausse. Et la Bible dit que ceux qui donnent les fausses prophéties ne sont pas le peuple de Dieu. Pourtant, ceux de la grande foule sont obligés de croire tout ce qui est dit par la voix officielle de l'organisation, et cela sans question. Vous avez la preuve devant vous. Oui, c'est une hiérarchie, ce n'est pas une théocratie. C'est une hiérarchie rendue possible justement par la division dont nous avons parlé aujourd'hui. Et beaucoup de témoins sont en train de s'en rendre compte. Il y a tant d'anciens témoins actuellement aux États-Unis, par exemple. Tant de gens qui sont sortis de cette organisation qu'ils commencent maintenant à tenir un congrès national, annuel, pour parler de leur libération, de ces fausses doctrines, et de la manière de convaincre les témoins actuels d'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Si vous voulez couper la machine et mettre la lumière, je vais terminer. Et je vous remercie. Nous avons vu que le choix de littéraliser un chiffre symbolique dans un passage hautement imagé est un moyen bien précaire d'établir une doctrine sur laquelle dépend tout le reste d'un système religieux. Nous avons vu qu'il n'y a pas de classe parmi les chrétiens, mais que tous sont un, qu'il n'y a qu'un seul corps et une seule espérance, et non pas deux corps et deux espérances. Nous avons vu que le contenu de la Bible est disponible à tous et s'applique à tous les hommes sans exception et que personne n'a le droit de déclarer que certains ne peuvent pas y trouver leur salut. Et nous avons vu que là où les témoins prêchent qu'il faut éliminer l'hiérarchie, là, ils en ont édifié de plus grandes, qui contribuent à la même erreur commise par d'autres groupes, celle d'une classe de dirigeants et d'une classe de dirigés. Puisque c'est la dernière fois que je prends la parole dans ces conférences, je tiens à souligner encore une fois ma sincérité et ma bonne foi dans ce que je viens de dire. Je le fais par responsabilité et par amour. Si j'ai offensé quelqu'un par ma manière de parler ou de présenter ces choses, je vous fais toutes mes excuses. Mais si j'ai offensé quelqu'un en disant la vérité, je n'en fais aucune excuse. Je reste profondément convaincu que les témoins font partie d'un système qui est voué à leur destruction, alors qu'ils croient évidemment tout le contraire. Je ne leur demande que de regarder l'évidence biblique que j'ai présentée et que nous sommes en train de présenter lors de ces conférences. Et je prie Dieu qu'il nous guide tous dans une plus grande mesure de la connaissance de sa parole, de son amour et de sa volonté pour chacun d'entre nous. Je vous remercie de votre attention.